pour être complètement exact, ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Mais c'est peut-être ce que j'avais envie de dire. Oui, c'est une vision des choses. Alors si on prend le problème l'anglais, En tout cas, merci à vous. Bonjour et bienvenue sur Bagre au Point. Nous sommes en direct du dimanche 15 avril au moment de l'enregistrement de cette émission. Nous sommes le 10h17, il est exactement Stunfest, c'est MDJC derrière le micro et vous écoutez Riversal. Qui n'a pas déjà rencontré une femme? Mais si, vous savez, ces êtres humanoïdes qui nous ressemblent, de bras, de jambes, presque comme nous, sauf que voilà, on ne parle pas la même langue. Et parfois, c'est si différent qu'on ne se comprend pas du tout. Je vous propose ce soir un sujet un peu particulier, avec comme invité, au départ, on ne devait avoir que des femmes. Et là, finalement, je me retrouve avec finalement une majorité masculine, comme c'est souvent le cas autour du jeu de combat. Alors pour être complètement honnête avec vous, je vous dirais que hommes comme femmes m'ont clairement exprimé le fait qu'il s'agissait d'un sujet casse-gueule, preuve ce soir s'il en est qu'en plus on enregistre le matin, que c'est une vérité absolue et qu'il valait mieux l'éviter. Ce sujet, c'est comment la gente féminine vit son évolution dans la communauté des jeux de combat. Pour y répondre, j'ai autour de moi, à l'extrémité complètement à gauche, notre ami Ken Bogart.
Ah, c'est moi Mélenchon, extrême gauche, bonjour.
Mizou qui est juste à sa droite.
Bonjour.
Will Cook qui est juste encore à sa droite.
Bonjour.
À ma propre droite, j'ai Kayane.
Salut à tous.
Et puis donc pour finir, à l'extrême droite, c'était pas fait exprès, je tiens à dire. Kurama.
Oui, ça va pas être possible. Bonjour, Kurama Tengo.
Ce qui est bon dans ton système, c'est qu'il y a une gauche et que des droites.
Ouais, t'as vu un peu le sous. Est-ce que le jeu de combat est politisé? La réponse est officiellement oui aujourd'hui. Donc voilà, alors pourquoi un sujet casse-gueule? En fait, il y a plusieurs événements qui ont fait qu'on ait décidé de faire un podcast autour de la gente féminine. Ça fait près d'un an, pour pas dire plus, qu'on avait l'idée. Je crois que la toute première fois que je t'ai contacté, Kayane, c'était, ça devait être il y a à peu près un an, c'est après le Stunfest, si j'ai pas de bêtises.
Possible.
On en avait parlé à ce moment-là, puis on a laissé de l'eau couler, puis on a repris le truc, etc. Il a été assez compliqué d'avoir l'avis de la gente féminine en général. Il y avait plein de gens qui avaient des choses à dire, puis finalement qui au dernier moment n'avaient plus rien à dire. Grosso modo,
en même temps, tu vas chercher.
Voilà, grosso modo. C'est ça.
Un dimanche matin, 10h après deux jours
de dos. Mais il n'y a pas eu que ça, parce qu'il y a aussi les questions qu'on s'est posées quand on a construit le truc avant et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Grosso modo, on est tous tombés d'accord sur le fait que le milieu du jeu de combat est un milieu clairement masculin. Maintenant, c'est comment la gente féminine vit son évolution. Alors, juste avant de démarrer, Kayane, si tu pouvais nous rappeler un petit peu ton parcours de joueuse, comment t'en es venue à jouer? Et voilà, toi qui es certainement la joueuse la plus connue en France.
Ben, j'ai commencé à jouer grâce à mes frères qui étaient d'abord champions de Tekken. Donc moi, comme je voulais faire comme eux et jouer, alors j'ai commencé à jouer à Tekken, à Soul Calibur et Dead or Alive. Puis ils ont pensé que j'avais un bon niveau, donc on m'a emmené en tournoi. Et quand j'avais 9 ans sur Dead or Alive 2, donc l'accueil était merdique. J'ai été mal accueillie du fait que j'étais une fille et en plus j'étais jeune. Donc déjà qu'on sous-estime les enfants, on sous-estime les femmes. Alors j'étais les deux à la fois, c'était deux fois plus de critiques à encaisser. Mais j'étais avec une copine de mon frère que je considérais comme ma grande sœur et qui était là justement pour me soutenir, qui me disait « fais pas attention, représente-nous les filles et c'est très bien ». Donc voilà, j'ai terminé vice-championne, j'ai rencontré Hayabusa, alias Sandgreen, un très grand joueur de Dead or Alive en finale. Puis lui, il ne m'a pas du tout sous-estimé, il a été très fair-play. J'ai aussi rencontré Manu lors de ma demi-finale, si vous le connaissez. Et lui également a eu une bonne attitude, mais tous mes adversaires auparavant ont été très machos. Et ça s'est comme si c'était au cinéma. Il me disait, oh, je te laisse mettre le premier coup. Et puis, la réaction du public aussi était très drôle. Enfin, moi, ça ne me faisait pas trop rire sur le coup parce que j'étais très gênée. Mais quand on a appelé mon pseudo et que j'ai dit oui,
j'ai eu un signe. Moi,
personne n'a pas changé de voix depuis 8 ans.
Oui, je crois que nous avons une petite fille qui s'est perdue.
Oui, et puis après, ils se sont tous tus. Et puis ils ont regardé dans la direction de la petite voix. Et j'ai fait oui, c'est moi. Et puis ils ont tous éclaté de rire en disant ah, c'est pas trompé d'endroit la petite. Faut la remettre dans le droit chemin, là où il y a les mangas et tout ça. Donc j'avais la rage de vaincre à ce moment-là. Et lorsque j'ai fait une bonne performance, je me suis dit que il y a quand même beaucoup de choses à faire dans ce milieu. Et c'est aussi de là que est venue ma motivation pour jouer. Et en faisant des résultats, en allant à tous les tournois possibles sur Paris, et ensuite en voyageant, j'ai pu me faire une réputation de joueuse qui sait jouer et qui fait des résultats. Donc je suis quand même contente puisque j'ai pu le prouver sans faire de grands discours, puisque c'est surtout les résultats qui comptent. Et ça, dans le milieu, tous les hommes vous le diront, c'est pour les filles qui participent. Pas la peine de blabla et il faut jouer.
Est-ce que tu avais déjà eu le droit à des excuses de sac d'une lourdeur du type « bon, je t'ai laissé gagner parce que t'étais une fille »
Non, ça va encore, ça. C'est pas ces excuses, c'est plutôt...
Bon, je pourrais te le sortir du coup quand on fera un match ensemble, c'est très bien.
Non, maintenant c'est plutôt « j'ai Kayané dans ma poule, vas-y, c'est mort ». Maintenant c'est plutôt ça. Donc ça montre qu'il y a une grande différence de mentalité entre avant et aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément joueurs à haut niveau, mais qui jouent pour le plaisir, me connaissent de réputation au point de déjà annoncer leur défaite avant de jouer contre moi.
Donc la pression qui monte quand ils savent qu'ils vont jouer contre toi.
Oui, ils ont la pression et puis ils le disent en plus. c'est pas très malin hein, en
c'est
compétition.
C'est l'excuse de sac par anticipation.
Oui. Ouais, mais c'est bon, il y avait Kayané, toi j'étais déconcentré.
Pourquoi tu dis ça? Désolé, je vous retiens depuis 5 minutes, je vais pas recommencer.
Y a-t-il un profil type de la lourdeur masculine?
Ouais, moi.
Ah, j'avoue.
Ah, je suis témoin, ouais. Ouais, lui.
Ah, pardon, désolé.
donc type Whale Cook, oh là là, quelques heures de sommeil derrière nous, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des formules types que vous avez déjà tous entendues les uns les autres? Moi, j'ai déjà, lors de tournois ici, entendu des remarques, c'est ce que j'exprimais la dernière fois. On a parfois des mecs qui arrivent, ils sont parasés, ils sont habillés comme des sacs. Ok, ils sont là pour jouer, il n'y a pas de problème. Si jamais il y a une fille qui arrive habillée comme un sac mal coiffé, on entend des commentaires du genre « Ah, elle se laisse aller », etc. Est-ce que du coup, déjà, dès le départ, il n'y a pas des différences qui est posée entre la jante féminine et la jante masculine?
Ah si, quand même. Ouais. Les mecs peuvent tous se laisser aller, il n'y a pas de problème, on ne va pas les critiquer. Nous, les filles, il faut qu'on soit douées au jeu de combat, il faut qu'on soit belles, il faut qu'on soit gentilles et sympas et qu'on n'ait pas l'air nunu.
Ouais.
Non, en même temps, c'est facile de ne pas se laisser aller qu'on n'a pas de barbe.
Oui, c'est vrai, mais enfin, allez. Les mecs se ressemblent tous plus ou moins ici dans cette communauté. Du coup, ça les dérange pas, ça leur semble pas bizarre. Ils ressemblent tous à plus ou moins des poux parfois, mais ils s'en foutent complètement. Mais moi, j'entends pas trop ce genre de remarques, surtout en ce moment. Moi, ça fait
4
ans que je suis réellement proche de la communauté. Et. Bon, moi, j'ai peut-être des œillères. Hein.
Puis t'es souvent sur scène aussi. T'entends pas forcément pendant que tu commentes.
Et tu manques souvent de sommeil.
J'ai des concepts d'égalité des sexes assez forts et assez puissants qu'on m'a inculqué dès ma jeunesse. Du coup, je fais même pas attention si c'est garçon, si c'est fille. Et c'est vrai que même s'il peut y avoir des remarques désobligeantes, j'y fais pas attention IRL. C'est après, sur peut-être que ce soit des forums ou quand c'est à l'écrit, que j'arrive à voir beaucoup plus de différence entre les réactions de certaines personnes Et parfois, c'est assez étrange. Oui, parce
c'est
que,
même assez violent, je dirais, nous, pour ouais. avoir tenu des streams lors de la World Game Cup ou même au Stunfest, il y a des écrits quand bah, Kayane, par exemple, ou d'autres joueuses passent, que tu ne lirais jamais si jamais c'était un homme. Des commentaires
attends,
sur le physique.
Franchement, le monsieur Bogard, lui, quand il a commencé à faire des streams, au début, c'était vachement violent tout ce qui a été écrit sur lui, sur les forums.
Est-ce que tu as eu le droit à un homme qui a pris du cul?
Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément spécifique à une personne, à une fille, un mec ou autre chose. C'est spécifique à quelqu'un qui est médiatisé souvent aussi.
On a attaqué ma voix de gay puceau, on a attaqué je ne sais pas encore.
On se souvient rarement effectivement quand une fille commence à jouer au jeu de combat, elle arrive dans la salle déjà, on se demande pourquoi elle est là. Hein. Deux, si elle fait pas de résultat la première fois, on lui dit mais pourquoi elle est venue. Et si elle commence à faire un peu de résultat, en gros effectivement elle commence à avoir des problèmes tout de suite. Et si elle vient en accompagnante, on va se demander si elle vient pour draguer, si elle est déjà avec quelqu'un ou si elle est juste là pour porter le stick. Donc
le macho de base.
Je suis désolé, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, moi, il y a des commentaires que j'ai entendus réellement. Enfin, moi, ce qu'il décrit ici, je l'ai entendu encore cette année. Donc,
Alors, moi, je voulais juste dire une chose, mais je l'ai oublié.
C'est pas grave.
Il peut continuer,
je m'en rappelle. C'est juste pour dire que dans les jeux de combat, mine de rien, quand tu regardes les garçons entre eux, ils sont quand même relativement violents, un peu gras et agressifs. Donc, une fille qui se retrouve dans ce milieu-là, elle, en fait, elle est traitée comme un mec, quoi. C'est ouais. tout.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur ça, parce que je te dirais que quand il y a un mec que tu balances un truc violent, je sais pas, il a une tête qui te revient pas, tout, etc. Il y a pas derrière l'envie éventuellement de l'emmener jusque dans ta chambre. Donc il y a pas une réflexion derrière qui fait que tu vas essayer de plus ou moins ou de t'approcher de la demoiselle en question ou au contraire parce que tu sais que t'as strictement aucune chance parce que t'arrives avec ta tête de poux de balancer des trucs ultra violents en disant de toute façon c'est
on pourrait
donc
s'attaquer au mécanisme de pensée masculine, mais...
Tu veux t'allonger sur un canapé? Tu veux qu'on en parle?
Mais je suis presque allongé, là.
Tu veux pas présenter ta deuxième invitée aussi?
Mais vas-y, je t'en prie, vas-y, t'es parti, là, vas-y.
Vas-y, Mizu, comment vas-tu?
Bien, merci.
T'as pas encore beaucoup entendu depuis le début?
Non, j'écoute.
Et donc, y a Kayane qui nous a raconté sa longue vie passionnante et palpitante. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi?
Moi, par rapport à Kayane... Enfin, ça n'a rien à voir du tout, en fait. Moi, j'ai vécu à la campagne, déjà, donc je n'ai pas connu les tournois avant de rentrer à la fac. Et disons qu'au début, j'ai plutôt une famille qui a tendance à jouer aux jeux vidéo, c'est sûr. J'ai commencé sur Street 2, mais vite fait, quoi.
Ah bah non, mais attends,
en mode casu.
Street 2, déjà, c'est bon. Pour moi, tu fais partie d'une référence.
C'est bon. Enfin, on jouait en famille, on va dire. Et disons que, oui, en rentrant à la fac, j'ai rencontré Troy de Combo, et j'ai commencé sur... rien à voir avec Street, mais j'ai commencé sur Smash.
Mais un jeu qui est très, très fédérateur, justement.
Ça dépend de quel épisode.
D'un point de vue du vecteur homme-femme, c'est un jeu très populaire, très casual, qui regroupe quasiment à la fois tous les âges et à la fois
toutes les catégories. Deux genres.
Il y a eu une grande féminisation à partir de 2005-2006.
Ouais. C'est vrai que dans ce jeu-là, c'est moins... C'est moins dur que dans les jeux de combat comme Street Fighter. Où là, tout le monde est accepté.
En s'éloignant un peu des jeux de combat, de toute façon, des jeux comme Bomberman sont également fédérateurs de la possibilité que tout le monde se retrouve autour d'un même et seul jeu. Quoi.
C'est ça.
Oui, plus ça.
Bon, sinon, mon niveau n'était pas trop, trop mauvais à Smash, mais bon, je me suis plutôt prise au jeu de l'organisation des tournois de Smash pendant les rankings 3-hit. Et après, j'ai eu ma première World Game Cup qui m'a fait vraiment rentrer dans la communauté Street Fighter et tout. Parce qu'avant, j'y touchais pas trop, on regardait ça de loin. Nous, on était à côté en mode Nintendo, Smash, tout ça. Et c'est à ma première World Game Cup que j'ai touché à Street Fighter Vanilla. Et depuis, j'ai joué un peu, mais je suis restée quand même dans l'orga parce que je me suis rendu compte que j'étais un sac à ce jeu. J'ai jamais fait aucun résultat, mais bon, j'ai eu du plaisir à jouer quand même.
D'ailleurs,
mais je sais que je suis un sac. Hein.
T'as laissé une impression assez, assez inoubliable sur certains joueurs japonais avec ton cosplay, d'ailleurs. Et on a eu des commentaires sur Tuchan qui était assez drôle. Oui,
à la World Game Cup?
Ah oui, sur la World Game Cup 2010, oui, tout à fait. Il y a des logs qui sont assez. Oui, non, c'est fantastique. Hein, c'est, on voit justement que la c'est peut-être plus compliqué d'être une femme, d'une femme joueuse au Japon que finalement en Europe.
C'est vrai que les femmes joueuses au Japon, c'est des trans, en fait. Hein, pour le...
Alors, ces propos n'engagent que Ken Bogard. Je le souligne.
Ah, il parle de Kaiopolis.
Voilà, il y a Kaiopolis et il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Non, sérieux?
Mais tu ne sais pas tout, Kaiopolis.
Il faut faire très attention.
Il y a des dossiers.
Mais dis pas Blanca.
On a pris des trappes incroyables 2 années de suite. Hein, tout.
Moi, il paraît que je suis un trappe aussi.
Des fois, les gens hésitent sur moi.
C'est une rumeur qui répond pour autre raison.
Ah oui?
Oui, des fois les gens ils disent je suis ouais, it's a trap.
Chimal, ok, très bien, mais je le note. Ça...
Tiens, c'est marrant, il veut changer de place maintenant.
Donc Will Cook.
Non, reste à côté de moi.
Et que ça n'a pas vraiment de sens.
Mais du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, ouais. Notamment en 2000, nous sommes non, en 2011, j'avais entendu ça. Quand il y a des joueuses qui sont moins connues que Kayane, du coup, du fait que Kayane soit la référence en France, on a déjà entendu des commentaires du genre « Ah, il y a une nouvelle, elle veut faire comme Kayane. » Alors qu'un nouveau joueur qui se pointe, on ne lui dit pas « Tiens, il veut faire comme qui ?»
Tiens, une autre tête de con.
Voilà, mais c'est vrai que du coup, il y a une référence qui est mise en place. Et est-ce que ce n'est pas lourd sur les épaules de porter ça? Mais du coup, tu voulais peut-être rebondir.
Mais oui, moi, je peux répondre parce que peut-être que certaines filles ont découvert les jeux de combat par Kayane aussi, mais je vois pas pourquoi Kayane, à mon avis, Kayane a essentiellement un public masculin qu'un public féminin. Donc je ne vous crois
pas.
Là, tu es en train de la vexer, c'est pas bien.
Sincèrement, moi, c'est ce que je pense. Mais je pense pas que les filles veulent spécialement faire comme Kayane.
Je
pense que les filles ont exactement le même parcours que Kayane, justement. Soit c'est leurs copains, soit c'est leurs frères, soit c'est éventuellement leur famille qui les ont mis dans les jeux de combat. Parce que si tu dis ça, qu'est-ce que je devrais dire, moi, qui ai attiré énormément de gens aussi à venir jouer aux jeux de combat?
Mais régulièrement, on entend des mecs qui font « Ah, bah tiens, il veut faire comme Ken Bogard. »
Voilà, ça.
Ça, c'est du fait que tu sois devenu une référence. Voilà, mais ce qui sous-entend bien, du coup, que la gente féminine n'est pas traitée dans tous les cas de figure, comme parce qu'on dirait jamais à un joueur qui démarre, tiens, il veut faire comme Kongster, il veut faire comme.
Ça dépend de son personnage.
Ça dépend.
Et comment il joue.
Parce qu'il y a trop de joueurs.
Sauf si Jonda.
Il peut dire, ah tiens, il veut faire comme Daigo, si tu veux. On parle de Jun Jun 95, mais.
Oh, comment il balance.
On l'attend.
Sinon, voilà, il y a trop de références masculines, alors que des véritables références féminines, pour le moment. Aujourd'hui en France, il y a surtout Kayane.
Il y en a beaucoup dans le FPS et dans le. Et dans
oui. Bien entendu.
Le shooter est beaucoup. Justement, la Gamer Girl, ce qu'on appelle une Gamer Girl généralement, est beaucoup plus présente dans le FPS que
il sépare les joueurs. Ils font des compétitions féminines et des compétitions masculines dans le FPS.
Ça n'a pas été le cas au départ, justement, avec les équipes qui ont été organisées.
Pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Ça n'a aucun sens.
Oui, on est parti.
Je suis assez d'accord. Du coup, est-ce que tu sais pourquoi il y a eu une séparation des joueurs et des joueuses?
C'est tout simplement parce que ça permet de faire de la publicité rapide, très facilement. Et ça permet d'avoir des sponsors différents. C'est-à-dire d'avoir des sponsors en plus si on a un tournoi féminin.
C'est juste pour la médiatisation, quoi, tout simplement.
C'est totalement ça. Et surtout, ça permet aussi aux joueuses d'être plus visibles, puisqu'elles font à la fois le tournoi féminin et le tournoi, entre guillemets, masculin.
Oui, mais c'est un peu dégradant.
Je trouve
quand
que
même.
Ça ne les valorise pas, justement.
Oui, ça ne les valorise pas.
Dans des interviews, j'ai lu qu'ils mettaient ça sur le fait que les filles s'entraînent beaucoup moins que des mecs. Ils trouvent ça bidon. Parce qu'on peut y passer le même temps et je ne vois pas ce que le sac vient faire là-dedans.
Non, mais enfin, ça dépend après des communautés, hein, parce que nous, les joueurs de FPS, on les connaît pas très bien, donc peut-être que chez eux, ça se passe comme ça.
Les joueurs de FPS, ça doit être sensiblement pareil que nous, à mon avis.
Il y a KPES, effectivement, où il y a vraiment le OSR milieu qui est quasiment exclusivement masculin, mais sinon, on trouve des joueuses maintenant absolument partout.
Voilà, c'est ça. Peut-être que comme ils ont plus de
diversité, d'ailleurs inciter dessus,
je pense. Ils ont plus de joueuses, ils ont moins eu l'habitude de faire ce genre de remarques. Vous savez, quand on commence à être fondu dans la masse, les choses commencent à devenir normales. Et bon, pourquoi faire des blagues qui ne font plus rire, on va dire, les rigolos, ça ne sert plus à rien. Du coup, voilà, ce qu'il faudrait, c'est encore plus de joueuses. Alors, est-ce que pour ça, il faudrait séparer les joueuses et les joueurs? Moi, c'est vraiment quelque chose, je suis purement contre hein, ça, le fait de séparer les deux, parce que justement, on a trouvé enfin une catégorie de jeu, une catégorie de jeu compétitif, où on peut faire s'affronter les hommes et les femmes ensemble à un niveau égal, puisqu'il n'y a absolument aucune différence sur ce genre de jeu-là. Entre les hommes et les femmes, c'est pas physique, c'est voilà.
Tout se joue sur la qualité de l'input, voilà, sur le mind game,
voilà,
sur
exactement,
le
c'est
voilà,
de la
sur le cerveau, donc forcément
c'est de la dextérité et de l'intellect. Du coup, il y a absolument aucune différence. Alors pourquoi les séparer, même si ça va prendre peut-être plus de temps à intéresser. Il y a le contexte aussi, on en parle, les jeux de combat, c'est quand même quelque chose qui est assez masculin à la base. Et c'est ça qu'il faut essayer peut-être de faire comprendre aux gens, c'est que au-delà de l'aspect jeu de combat, il y a un jeu stratégique, tactique, qui se met en place et qui est agréable à jouer aussi comme ça, voilà, en jeu d'esprit pur et dur. Et on est arrivé avec le FPS qui est quand même vachement plus violent que...
Mais le FPS, on a toujours le problème, justement. Le principal sponsor pour les équipes féminines, c'est les rasoirs pour femmes. Le cliché est extrêmement, extrêmement, extrêmement violent. Oui, non, c'est,
tu m'avais pas dit ça.
Alors, en même temps, tu regardes un event comme le Stunfest, le rasoir pour homme, il a du mal à être représenté quand tu vois la gueule des mecs.
Je
vois pas du tout de quoi tu parles.
Franchement, je peux témoigner, vu le nombre de poilus barbus qu'il y a ici à ce Stunfest, pour être totalement
les pas loin.
Des rasoirs. Après, ils sont peut-être trop feignants pour pouvoir se raser.
Mais le MLG, ils ont Bic en sponsor, qui fait des rasoirs.
Ah, bah voilà.
Ouais, mais ils sont là pour les stylos.
Non, c'est pour les rasoirs, justement. C'est...
Donc, ils se rasent tous les matins.
Bah, quand tu vois la tête du commentateur de Soul Calibur qui a une barbe jusqu'au nombril.
Donc, tu es d'accord, il y a quand même un problème.
Big, ça marche mal.
Mais les sponsors, effectivement, qu'on a généralement sur ce genre de choses, hein, sont des marques qui sont généralement présentes dans les magazines masculins. Donc, on a beaucoup de marques de rasoirs, beaucoup de marques de boissons énergisantes, et beaucoup de produits qui sont peut-être de la junk food, hein, finalement. Hein, on peut appeler ça comme ça. Et donc on mange des saletés, on se rase et voilà, et on boit des saletés aussi, beaucoup pour tenir le coup. Ben c'est oui. Comme ça qu'on est vu généralement par le monde industriel.
Oui, mais ça vient aussi dans les jeux de combat. Hein. NOS, je crois, qui sponsorise énormément en ce moment.
Oui, c'est lui. Hein,
ouais. Les tournois de jeux de combat aux États-Unis. Mais il faut que ça vienne chez nous, là. Il nous les faut aussi, ces sponsors-là.
Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que, du coup, les éditeurs n'ont pas aussi leur part de responsabilité sur le comportement de certains joueurs ? Je m'explique. Les tournois au Japon ont démarré très, très vite. Particulièrement autour de Street Fighter 2 au départ. SNK a tout fait derrière pour essayer aussi d'alimenter la scène. La première joueuse... Le premier caractère féminin auquel on pouvait jouer, c'était Chun-Li, qui était complètement habillée, même si elle était sur un 195. Tissu au niveau des cuisses qui était très fin. Elle était vraiment habillée de la tête aux pieds. Elle avait une présentation qui était très, très digne, entre guillemets. Le deuxième caractère féminin qu'on a vu réellement apparaître derrière, qui a fait concurrence à Chun-Li, fait abstraction, ça va être Mai, qui, elle, était déjà présentée largement dévêtue.
Ouais.
Et Capcom a répondu avec une Camille qui se retrouve avec clairement les fesses en l'air sur son...
J'aime bien cette progression.
Non, mais du coup, c'est vrai que tout est flatté, tout est fait pour flatter du coup l'ego masculin. Est-ce que ça ne met pas une barrière supplémentaire du coup à l'entrée de la gente féminine dans le milieu? Et est-ce que ça... Parce que du coup, c'est des images qui sont véhiculées constamment, qu'on a sous les yeux constamment. Est-ce que ça n'alimente pas aussi la lourdeur masculine?
Ouais, je sais pas trop. Je sais que Chun-Li est un personnage assez populaire auprès des filles quand même. Mais après,
pas que.
Ouais, c'est vrai, pas que ou des grands enfants. Mais
je t'emmerde.
il y a à mon avis, au travers sur les autres filles, assez peu en moyenne de filles qui vont s'attarder sur des personnages essentiellement féminins. Ou alors c'est des personnages féminins, généralement, c'est pas être des persos extrêmement vulgaires ou considérés comme étant vulgaires. Beaucoup jouent des Ken, des dictateurs ou autres, Blanca, Zangief, j'en ai vu énormément. Le personnage féminin de référence, ça reste quand même Chun-Li, qui, comme tu l'as dit, avec une présentation assez digne, mais bon, il est vrai que le public ciblé a tout de suite été les hommes. Flatter l'ego masculin, c'était bon, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce que les hommes musclés et de tout type, en slip parfois, ne flattent pas l'ego féminin dans les jeux de combat?
Genre Algol dans Soul Calibur 5, quoi.
Voilà.
Urien, non, dans Street 3-3.
Oui, ils mettent des beaux gosses, ils mettent des trucs Justin Bieber bientôt à l'intérieur des jeux de combat.
Ah, je veux bien, je sais, rien que pour le plaisir de casser du Justin.
Mais tu as des goûts moisis, on te l'a déjà dit. Non, mais juste pour dire, c'est que par rapport à l'époque où émergeaient les jeux de combat, on était quand même dans une période dans les années 90.
91 pour Chun-Li, autant pour moi.
Bon, oui, 91. Chun-Li.
On était dans une époque où la représentation au cinéma, notamment de l'action, passé souvent par des stéréotypes d'hommes super bodybuildés,
ouais,
de femmes particulièrement sexy, on va dire, pour pas être vulgaire, parce que parfois elles étaient vulgaires aussi. Et voilà, donc c'était toute une imagerie, et on l'a retrouvée par exemple beaucoup dans les bandes dessinées américaines aussi, cette imagerie-là. Donc en fait, c'était une imagerie vis-à-vis de l'univers de l'action qui était très très forte à cette époque-là, et qui donc s'est répercutée naturellement dans le jeu de combat,
voilà, pas,
où on retrouvait
pas
les mêmes
mécanismes. Jeux vidéo, à mon avis. Ouais.
C'est dans l'air du temps. C'était dans l'air du temps. Aujourd'hui, on n'en est plus à ces stéréotypes-là. Ça a beaucoup changé quand on regarde la manière dont évoluent les différents médias. Mais à cette époque-là, c'était vraiment comme ça que ça se passait.
Je ne sais pas, Kayane Mizu, est-ce que vous aimez tous les personnages féminins des jeux de combat, ou il y en a réellement, vous ne pouvez pas?
Déjà, moi, je ne joue que les personnages féminins.
Ah, je suis pareil. Pardon.
Oui, mais toi, pourquoi?
Mais d'après toi.
Parce que c'est souvent des personnages rapides et efficaces.
Souvent, mais il y a des hommes aussi qui sont rapides et efficaces.
Ouais, mais c'est moins agréable à l'œil.
Ah bah.
Pardon.
C'est une fun service.
Non, je joue que des persos féminins et ça me permet juste de mieux me retrouver, quoi. Parce que quand je joue mon personnage, c'est comme une personnification de moi-même. Donc j'ai du mal à jouer et être concentrée et me sentir concernée si je joue un homme. C'est bizarre à dire, mais depuis toute petite,
c'est
je joue comme ça.
C'est pas bizarre du tout, en fait, c'est parfaitement...
Elle est vachement impressionnée par les personnages de jeux vidéo, en fait.
Parfaitement logique.
Ça, ouais, moi qui joue Chun-Li. Blanca depuis Street 2, ça me fait mal, quand même.
Il recherchait une personnification d'humain, pauvre Kurama.
Blanca.
Et toi, Mizu,
tu joues Mario ou Link?
Quoi? Link. Non, moi, c'est vrai qu'au début, j'ai tendance à jouer que des persos féminins. J'ai surtout joué sur Camille, Jury. J'ai essayé Chun-Li aussi, mais j'ai un peu plus de mal. Perso à charge, c'est pas mon truc. Mais je me suis essayé aussi au perso masculin. J'ai d'abord tapé dans le top tier avec Yang, mais vu qu'elle a été nerfée, je me suis essayé à Tio, qui est Cody aussi un peu... Moi, c'est un peu tout. C'est aussi pour changer un peu. Ça change. Une fille qui joue un personnage masculin, c'est pas mal aussi. Et puis, les persos masculins sont pas non plus inintéressants. Ils ont des bons coups aussi.
Alors moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses vraiment à ça quand tu choisis un personnage? À ces histoires, ouais, je prends un garçon, une fille.
Je prends celui qui me semble le plus charismatique.
Ah, voilà, ça, c'est une réponse bien.
Voilà, tu sais, Cody, c'est la belle tête
blonde.
Attends,
Tio qui est charismatique.
Oui, ah bah... oui, Tio qui est charismatique.
Oh, parle bien, toi, d'accord, hein. T'as pas sonné.
On ne tombe pas les gens.
Temps, non, là, elle lance un débat.
C'est le perso le moins charismatique de l'histoire de l'univers. Mais je sais pas.
Mais ceci dit, d'après...
Il dégage quelque chose.
D'après les gens qui se sont penchés sur le sujet, notamment certains psychologues, l'homme, quand il regarde effectivement ou un film, ou quand il joue à un jeu, c'est vrai qu'il n'est pas exactement dans la scène, alors que la femme a tendance à automatiquement prendre la place du personnage ou de la personne qui est à l'écran. En fait, l'homme a un côté plus voyeur dans ce qu'il est en train de faire. Et du coup, il y a une gestion apparemment qui serait différente dans la manière qu'on a en fait de rentrer dans le jeu entre la jante féminine et la jante masculine. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu disais voilà, moi je suis Chun-Li à ce moment-là, peut-être que ça peut jouer. Bon, là, après, pourquoi tu prends Tio, qu'après, je ne sais pas, mais le...
non, mais c'est pas faux. Puis après, je sais pas, il y a aussi toute la dynamique du cosplay qui rentre dans cette optique-là.
Donc, t'as déjà fait Tio aussi?
Non, mais j'ai pensé à faire Jury, hein, franchement.
Mais ouais, mais Thio, que j'aimerais bien voir ça, hein. Franchement, là, lui tu nous vends du rêve.
Ah,
oui, moi, un indien de 2m20.
Voilà. J'ai monté sur des échasses. J'ai un peu de sport, c'est bon. Plus de problème. Et je voulais dire un truc, mais voilà, ben voilà, à cause de vous, ça m'a.
On voit les premiers cosplays, il faut se rappeler qui est le premier cosplayer, hein. C'est Forrest J. Ackerman. Et il était.
Pas Ono.
Pardon ? Non.
Non,
c'est
sûr.
Non,
c'est pas Jackie Chan.
Dans les années 50.
Ah, Johnny.
Donc ça nous rajeunit pas. Et puis il faut voir ce qu'il cosplayait. Hein, quand, donc, bon.
Et c'était cosplayé en quoi ?
C'était un personnage imaginaire de Buck Rogers. Donc wow. Voilà.
Waouh ! Le gars, il est déjà fou dans sa tête. Hein.
100% glitter. Donc, quand, l'histoire du cosplay, finalement, on peut cosplayer tout ce qu'on veut, et c'est très bien comme ça.
Non, c'était juste pour dire que pour les jeux de combat, moi j'ai vu plus de filles faire des cosplays de persos de jeux de combat que des garçons.
C'est depuis le. On voit cette tendance, effectivement, depuis le début des années. Le milieu des années 90. Il y avait beaucoup de cosplayers qui étaient plutôt plus masculins dans les années 50-60. Et encore plus après l'arrivée de Star Trek. Et avec l'arrivée des jeux vidéo, on a eu beaucoup de cosplay drôle. Donc on a eu beaucoup de Pac-Man. Ouais. Pas...
Donc, en même temps, vu la popularité du personnage, ça se comprend.
Mais ceci dit, le problème du cosplay, c'est que ça demande quand même un certain investissement. Et quand tu vois le caractère design de la plupart des hommes de jeux de combat, je dis la plupart, ils sont quand même super musclés. Alors que quand tu vois la jante féminine, ça se joue plutôt autour du tour de poitrine et des hanches. Il est plus facile, je pense, de se déguiser pour une femme en personnage féminin de jeux de combat qu'un mec qui va déchirer un kimono, arriver avec ses tout petits bras et faire « Les gars, je suis Ryu
». Genre, tu l'as pas déjà fait.
Mais, justement, à cause de mes bras.
C'est réellement de moins en moins. Ouais, beaucoup plus de personnages androgynes aujourd'hui dans l'univers.
Ah, mais quel regard, je ne peux pas accepter que tu me contredises.
Il n'y a pas que SNK dans la vie,
et
tu sais.
On voit beaucoup de femmes se cosplayer en personnages masculins. Je pense à un cosplay très populaire, ça doit être celui de Jean de BlazBlue, qui est un cosplay féminin uniquement. Je ne vois aucun mec cosplayer en Jean que les femmes, alors que les femmes se cosplayent en ce personnage masculin. Mais par exemple, dans peut-être tous les jeux Arc System ou dans d'autres trucs, je vois déjà les cosplays du jeu Persona arriver dans pas longtemps.
Il y en avait déjà avant, hein, Persona est l'un des RPG les plus populaires de tous les temps au Japon.
Donc, je veux dire, c'est...
Une des séries, pour être précis.
C'est assez garanti, mais je sais pas, hein, que c'est ce genre de personnage. C'est, quand on regarde, quand on lit des shoujo, moi j'aime bien lire aussi un peu de temps en temps des shoujo.
Mais il faut lire de tout. Hein,
voilà, exactement.
Tu as d'autres choses à confesser ou...
Non, ça c'est pas de la confession, j'adore les shoujo. C'est mon jutsu même, des fois. Et je vous recommande Kimi ni Todoke si vous ne l'avez jamais lu, très très bon manga. Et je disais donc, les personnages masculins dans ce genre de manga, on les voit, ils font tout pour être absolument splendides et paraître aux femmes comme ça, merveilleux. Et quand tu regardes le personnage, tu te dis, toi en tant qu'homme, il transpire en rien la masculinité, quoi. C'est même plutôt assez souvent le contraire dans le manga japonais. Du coup, ce genre de personnages, on les retrouve quand même assez dans les jeux de combat aujourd'hui. Et je pense que c'est des persos aussi sur lesquels les filles peuvent s'identifier. Ça se voit dans, ça se ressent dans le cosplay.
Ça vient aussi d'un certain phénomène où les cosplayers ne sont pas forcément des joueurs. Donc, quand tu as envie de faire un personnage charismatique, tu vas taper dans d'autres publics, non ?
Le cosplayer n'a rarement été vraiment très intéressé par son sujet. On commence à avoir des cosplayers qui ne sont plus qui sont juste là parce qu'ils aiment se déguiser tout simplement à partir du milieu des années 80. Avec justement l'apparition des événements qui mêlent comics et Japanimation en général. Non, plus que... Généralement, les premiers cosplayers justement arrivaient dans des événements de comics et ils disaient... Ah, ça m'intéresse pas de faire un personnage de comics, c'est pas fun. Tiens, je vais faire. Tiens, il y a Dragon Ball à la télé. Chouette.
On s'est retrouvé avec des super Saiyans partout.
Oui, il y a des trucs, ça piquait les yeux. Quand même.
Mais c'est.
Mais pour en revenir en fait au sujet, à la place des femmes peut-être dans les jeux de combat. Ça, on peut venir aujourd'hui. Je trouve quand même que ça a grandement évolué. On peut constater, c'est à ce Sunfest, hein, on voit beaucoup de femmes venir même jouer, participer au tournoi. Hein. C'est de plus en plus, hein, d'année en année, de mois en mois. Et elles sont de plus en plus là. Il y a des filles qui sont là depuis tellement longtemps dans les tournois. Enfin, quand on se balade de tournoi en tournoi, tu sais que les habitués de la communauté les côtoient quasiment tout le temps. Ils ne voient plus aucun problème. Finalement, ceux, à mon avis, qui parlent et qui sont encore un peu en mode macho, c'est les mecs qui sont là juste ponctuellement, qu'on ne voit quasiment jamais ailleurs. Mais si tu regardes la diversité, alors évidemment, les hommes sont très, très, très majoritaires, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup plus de femmes et elles sont globalement bien représentées. Elles essayent de s'investir comme les hommes essayent de s'investir. Après...
Moi, je pense qu'elles ont toujours été là, mais que, disons, enfin, j'ai remarqué que depuis 2010-2011, elles parlent plus, enfin, elles viennent plus se mettre au devant de la scène, en tout cas.
C'est vrai.
Alors que je pense qu'elles jouaient déjà depuis un certain temps.
Comme disait Ken, on a une arrivée massive des joueuses sur les jeux de combat en général, à partir de 2005-2006, en passant par Smash. Ouais. Mais on a une arrivée massive du public féminin sur les conventions et sur les événements avec des tournois à partir de 2002-2003, donc essentiellement autour des jeux musicaux. Et peu à peu, il y a une porosité qui a permis effectivement d'avoir des filles partout. Mais partout, partout, partout. Et on s'est rendu compte, que les filles ont pu se rendre compte, je pense, que, on m'accepte parfaitement. Je peux aller jouer à un jeu de foot, je peux aller jouer à un jeu de combat sans aucun problème, même si je suis venu pour autre chose. Il y a aussi, finalement, l'ambiance d'une convention ou d'un tournoi qui permet de découvrir, de voir autre chose. Et peut-être aux gens qui passent juste parce qu'il y a un peu de lumière, de voir finalement, ah tiens, je vais me mettre à ce jeu-là parce que c'est bien, tout simplement.
Mmh. Exactement.
C'est vrai. Donc, que l'ambiance, il fait beaucoup. J'ai peut-être fait beaucoup de ranking 3-8 avant de vraiment toucher un stick pour jouer à Street. Et puis en vrai, la première fois que j'ai touché, c'était à la World Game Cup. Quoi. C'est beaucoup l'ambiance, voir que ça toute la journée, finalement, ça m'a intéressé.
C'est vrai que la communauté, l'ambiance joue beaucoup. Par exemple, à Soul Calibur, déjà, l'univers du jeu est plaisant et ça attire déjà des filles, plus que d'un jeu comme Street Fighter, Mortal Kombat, par exemple, je pense, que grand public...
Il y en a plein dans le jeu, quand même, hein, dans Soul Calibur des filles, justement.
Oui, les filles sont bien représentées. Ouais. Et la communauté est très accueillante. Et du coup, comme il y a moi et d'autres filles déjà... qui se sont bien intégrées, quand d'autres filles qui ont un peu peur de s'y mettre, elles voient qu'il y a déjà des filles, qu'on est bien intégrées, qu'on s'entend bien avec tout le monde, elles se disent, si je viens, alors on ne va pas me mettre à l'écart, on va être sympa avec moi, elles ne vont pas faire face à une attitude macho du tout. Et c'est grâce à ça, grâce au site skyber.fr, on véhicule une bonne image de la communauté et on montre qu'on veut l'agrandir. Et aussi, on fait beaucoup de guides, on aide beaucoup les joueurs. Donc forcément, ça donne envie de s'intégrer dans la communauté. Donc je pense aussi que les sites communautaires et l'ambiance qu'on peut donner, l'image qu'on peut donner de notre communauté joue beaucoup sur l'intégration des filles dans les jeux de combat.
Donc il faut vraiment revenir à un gros site communautaire comme on rêve de le faire depuis maintenant 5 ans. Là, oui.
Non, plus le site est gros, plus il y a de cons dessus, vaut mieux éviter.
Pardon. Mais, du coup, est-ce que dans l'environnement graphique d'un jeu ne joue pas du coup sur le fait qu'une femme accroche plus ou moins au jeu? Quand on prend un jeu comme Soulka, y a, graphiquement, il y a un côté plus neutre entre guillemets qu'un environnement comme celui, ouais, de Street 4 qui est clairement masculin. Est-ce que ça ne joue pas en fait sur justement l'appropriation du jeu?
Moi, je sais que c'est purement une question de culture. On va au Japon, des jeux comme BlazBlue, comme ou d'autres jeux attirent beaucoup, beaucoup, beaucoup les joueurs. Tekken énormément de joueuses féminines sur Tekken, alors qu'ici en France, trouver des joueuses féminines réelles sur Tekken n'a pas beaucoup. Sur BlazBlue non plus, déjà trouver beaucoup de joueurs sur BlazBlue c'est difficile, alors que Street Fighter attire énormément les joueuses féminines. Je ne sais pas ce qui fait les mécanismes qui font que les femmes, mais à mon avis, et on en a la démonstration par contre-exemple, c'est pas forcément les jeux, ou alors c'est une question de culture d'un côté ou d'un autre du globe, mais c'est pas systématiquement l'ambiance du jeu elle-même. C'est peut-être des fois il y a un public qui apprécie juste de pouvoir jouer à un jeu simplement et de pouvoir s'y investir, comme Street 4 donne la possibilité d'être assez accessible et de mettre son pied dans les jeux de combat.
Peut-être que ça rentre dans le mode de pensée aussi que les filles dans les jeux de combat, pour être traitées à égalité, des fois elles disent qu'elles veulent être traitées comme des garçons, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas de discrimination et tout ça.
C'est pour ça qu'on peut faire des blagues salaces avec des filles, je suis désolée.
C'est pour ça peut-être qu'elles ne veulent pas se mettre à des jeux peut-être qu'on imagine trop féminins.
Et pour revenir à ce qu'a dit Ken, en fait, je pense que si on joue beaucoup à Street Fighter et Soul Calibur en Europe, c'est surtout la médiatisation qui est liée autour du jeu. Alors qu'au Japon, peut-être que dans les salles d'arcade, on voit tous les jeux que tu as cités. Forcément, les filles vont toucher un peu à tout et jouer aux jeux qu'elles préfèrent. C'est une communauté autour de ça.
C'est ça, exactement. Bah, après, au Japon, la médiatisation sur Street Fighter est quand même bien plus importante que sur les autres jeux, mais on retrouve pas forcément plus de joueuses sur ce dernier que
et puis,
sur des jeux comme BlazBlue.
Juste pour en revenir aux salles d'arcade, au Japon, les jeux de combat, c'est quand même tout ce qui est au fond de la salle d'arcade. Ouais. Avant d'y arriver, il faut passer par les machines.
Les
polycolas, les UFO catchers, les jeux de danse musicaux,
les jeux
bornes dédiées. Enfin, au fond, tu arrives au jeu de combat. Donc, pour aller vers le jeu de combat, il faut vraiment en avoir envie.
Tu veux dire que c'est un véritable combat de pouvoir accéder.
Ce que je veux dire, c'est que tu n'y arrives pas par hasard.
Souvent, le jeu de combat, c'est au dernier étage.
Alors, on peut tout de même parler au Japon d'un truc assez particulier, parce que souvent, les étages de jeux de combat, les zones de jeux de combat, sont couplées avec un autre jeu très très populaire au Japon qui est Gundam, la série des Gundam versus.
Le jeu de versus en gros au Japon, faut pas l'oublier. Quand on parle de Kakuto Game, donc de Kakugei, ouais. on parle de jeux effectivement qui ont justement cette opposition. Une opposition directe.
Ouais.
Par exemple, un shooter avec une notion de confrontation directe,
ouais,
est un Kakugei.
Un Gold Star ou des trucs comme ça.
Voilà. Donc c'est absolument logique que ça soit au même étage.
Ouais, et d'un autre côté, on le sous-estime souvent, mais le jeu de combat n'est pas du tout le genre le plus populaire de l'arcade, hein, au Japon.
Pas du tout. Et même pas du tout.
C'est une niche en réalité comparé à tout ce qui est le marché de l'arcade.
C'est même rien du tout. C'est
voilà. On a toujours une vision un peu exacerbée de ce que ça représente dans l'univers japonais, le jeu de combat, mais en réalité, les jeux musicaux, par exemple, sont infiniment plus populaires que les jeux de combat.
Même les UFO Catcher.
Les
champions du faux catcher.
Et les jeux de cartes. Et les jeux de cartes avec justement.
Ah oui,
avec
les bornes. Ça, c'est infini. Infini dans les salles d'arcade japonaises. Mais bon, tous ces jeux sont quand même assez proches et toutes les salles ne sont pas faites pareil. Évidemment, ça pousse les gens à regarder un peu partout. Mais moi, je sais que si jamais une fille vient se balader dans une zone de jeu de combat comme ça au pif, il y a 80% de chances que la première pièce qu'elle mette, ce soit dans Tekken ou dans BlazBlue. C'est quasiment sûr, quoi. Parce que voilà, Tekken, je sais pas, ça leur parle. Ça parle beaucoup au casual au Japon. C'est pour ça que c'est un des jeux probablement les plus joués.
Et d'ailleurs, il y a le paradoxe de The King of Fighters qui est assez amusant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cosplayeuses qui font des personnages de KOF. Ouais. Et finalement, assez peu de joueuses là-dessus.
Parce que le jeu n'a rien du tout de féminin. Enfin, pour moi, comme tu as très bien fait la remarque, personnage comme Mei créé dans King of Fighters, c'est un personnage créé pour les hommes, pas pour les femmes. Chun-Li créé pour les femmes, je le pense sincèrement. Hein.
C'est le premier personnage effectivement qui a un côté presque féministe.
Oui,
Akiman entre Street 2 et Street 3 a vraiment fait évoluer le personnage. D'ailleurs, quand on a eu le passage de Street Fighter 2, donc Hyper Fighting à Super Street Fighter 2. Ils ont changé, la seule partie du corps de Chun-Li qui a réellement changé, c'est son visage, avec l'arrivée donc de Camille qui représentait donc la jeune génération et la jeune fille. On a donné un côté plus mature à Chun-Li. L'ending de Chun-Li dans Third Strike, c'est devenu entre guillemets une maman maintenant, qui est un peu une sainte parce que du coup, elle s'est pas ses propres enfants, donc elle a jamais eu.
C'est une MILF.
Voilà, elle a jamais eu d'histoire prouvée. Donc en fait, elle a pas d'aventure, elle a pas de sexualité, mais pour autant, c'est une vraie maman. Donc il y a vraiment le côté sain qui est mis en avant et le côté très digne du coup de la gente féminine du coup.
Exactement, chose qu'on retrouve quasiment pas dans King of Fighters.
Non.
Il y a beaucoup de personnages effectivement qu'on met en avant pour qu'en tant que love interest ou en tant que petite amie.
Ouais, il y a des petites gamines, des garçons qui manqués.
Des claques à Ralph, mais ça pose pas de problème.
Franchement, un personnage féminin dans KOF.
C'est un jeu qui est fait pour faire du cosplay, vendre du produit dérivé.
Voilà, c'est tout, ça, c'est ça, ouais. C'est ça.
Bah, BlazBlue, les développeurs ne sont pas cachés que c'était aussi beaucoup ça l'optique qui a dirigé le design des personnages. Le cosplay, les produits dérivés et l'envie de donner aux gens de connaître les personnages en fait.
Bah, ça c'est justement avec King of Fighters qui a abordé ça avec justement la date d'anniversaire, sa nourriture préférée, son
loisir
préféré.
Ah, c'était déjà présent dans Street 2 hein.
Pas à ce point-là, c'est justement non, ça.
Disons qu'il fallait que le fan fasse la démarche d'aller chercher l'information, alors que dans KOF, c'était
Fatal Fury, présent. C'était déjà dans la notice. Hein. Mm-hmm. Fatal Fury, c'était dans la notice.
Oui, mais dans Street 2 aussi.
Mm-hmm. Pas tout de suite, il me semble.
Si, dans Street 2, je peux te garantir aussi. Il y avait même un truc rigolo, c'est que Chun-Li était le seul personnage dans lequel on ne connaissait pas le poids, parce que quand il y avait marqué le poids du personnage, Chun-Li disait, elle ne veut pas le dire.
En revanche, on connaissait
les mensurations. Les filles ne donnent pas leur poids.
Non, les mensurations, il n'y a pas de problème.
Les mensurations sont là, mais le poids n'y est pas.
D'ailleurs, elle a pris de la poitrine entre Street 2 et Street 3. Ça, c'est fait.
Il le dit à la fin du podcast, comme ça il est un peu safe. Hein.
Exactement, il est safe. Voilà, de toute façon, là, nous, on va tout doucement donc, passer la main sur un autre podcast. Alors, sur une autre émission, c'est infernal. Je suis désolé pour ceux qui sont là, qui nous écoutent. C'est que ça fait combien de jours qu'on est là maintenant? On dit quel jour aujourd'hui?
On est le 3e.
Dimanche, c'est ça. Hein. Dimanche, et les gens sont arrivés entre mercredi.
Combien d'heures au total? 3, 4.
Voilà, c'est ça.
En même temps, est-ce
autant
qu'on a déjà
d'heures que de jours de tournoi?
Est-ce qu'on a déjà eu autant de public là sur un enregistrement live
d'un Riversal? Non, jamais.
Ouais, bonjour, c'est un grand événement en soi. Hein. Merci beaucoup à tous.
Bonjour public.
Vas-y, refais le plus fort pour voir si ça applaudit. Bonjour public. Voilà.
Ça, et ce n'est pas des applaudissements en boîte.
Parce que quand il n'y avait que des hommes ici, tout le monde n'en avait rien à faire. Et voilà, enfin, tant qu'on a un peu de féminité. Voilà pourquoi il faut aussi
ben la féminité. Oui,
tu crois que c'est à cause des femmes qu'il y a autant d'hommes dans le public là?
Je ne sais pas. Ouais, moi, je pense à cause de toi, Welco, qui sont tous venus pour te voir.
Il y a des chances.
Ils ne résistent pas à ton sourire.
Je voudrais remercier particulièrement du coup Mizu et Kayane d'avoir participé à ce podcast. Et puis vous messieurs, c'est toujours un véritable plaisir de vous avoir. Merci.
Et Mizu, tu la remercies pas.
Et Mizu, j'ai pas dit Mizu.
Non. Si, il a dit.
Ah pardon.
Bon, merci. Je suis complètement crevé. Voilà, je me suis dit bon, ça se trouve je l'ai pas dit.
Bon, je m'excuse.
Le chevalier blanc.
J'aime bien râler.
C'est pas toi normalement, chevalier blanc.
Si, c'est moi, c'est vrai des fois.
En tout cas, j'ai hâte de voir un jour une cosplayeuse jouer Ivy en cosplay d'Ivy. Ça bien.
Ou Dev.
Non.
Bon, là, on va rentrer dans un autre débat. Je ne sais pas si c'est très safe aussi. Ça. Voilà. Merci à tous. Et puis, à très bientôt pour un nouveau Riversal.
Merci.
Merci. Merci.
Bisous.
Au revoir. À bientôt.
Il y a une deuxième partie qui sera enregistrée plus tard de ce podcast.